avec Akali Kouchine au Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême. Bonjour.
Bonjour.
On est là pour discuter de Carnaval, votre ouvrage qui sort donc aux éditions Manolo Sanctis. Comment est venue cette idée de détourner Alice au Pays des Merveilles? Est-ce que c'est que ça déjà?
Non, ce n'est pas seulement un détournement, c'est plutôt une récupération, une appropriation de quelques symboles d'Alice au Pays des Merveilles. Et l'idée dans Alice au Pays des Merveilles, c'est d'abord cette petite fille qui se découvre jeune femme, en fait, au fur et à mesure, à travers un délire psychotique, je trouve, qu'elle a. Et c'est ça qui me plaisait. Mais plutôt que de me pencher que sur Alice au Pays des Merveilles, l'image qui m'intéressait, c'était celle du lapin blanc, toujours en retard. Et le lapin blanc qui l'entraîne dans ce délire psychotique de plus en plus, dans tout ce maelstrom, après visuel surtout, parce que c'est un livre visuel avant tout. Ça inspire forcément les auteurs de bandes dessinées et réalisateurs de films, des fois mal inspirés d'ailleurs, ce qui est décevant, quelle décence. On sait tous de qui on parle, mais on nommera pas de nom parce qu'on le respecte quand même pour tout ce qu'il a fait avant.
Monsieur B.
Monsieur B, TB. Et donc, ensuite, j'ai ma propre histoire, j'ai mes propres fantasmes et délires. Et ensuite, j'ai juste retraduit. On l'a créé ensemble avec une amie au départ. On voulait faire juste une histoire d'Alice au Pays des Merveilles classique. Donc, on a juste changé l'idée, plutôt que faire le petit lapin, un grand lapin, plutôt que faire un lapin finalement, un homme qui porte le masque de lapin, mais noir, pour faire vraiment ce mystère et s'approprier ce personnage, qui après, à travers mon scénario, est devenu un révolutionnaire. Donc, j'ai vraiment réutilisé. Les éléments de Lewis Carroll, c'est tout, je n'ai pas détourné, on va dire.
Le transfert dans un monde contemporain s'est fait naturellement, ou est-ce qu'on aurait pu partir sur carrément plus loin de l'anticipation et partir carrément SF?
La SF est déjà, en fait, la SF avant tout doit être, je trouve, sociale. On doit faire du, comme Kadic le concevait, d'utiliser les éléments de SF comme des exagérations, des symboles qui permettent de montrer nos défauts comportementaux, sociaux. Par exemple, dans Ubik, le fait de payer la porte pour entrer chez soi, ça a l'air absurde dans Ubik, mais on paye bien un loyer, on paye bien l'électricité, on paye tout ce qui est vital pour nous, on doit le payer. Et on se pose pas la question, on dit juste c'est trop cher, et la porte qui réclame son argent juste pour rentrer chez soi, pour être utilisé, c'est pas plus absurde. Kadic utilisait cette absurdité à travers la science-fiction parce que c'est plus facile de faire croire que ça n'existe pas, mais en même temps on parle de ce qui est Scanner Darkly, c'est la même chose, c'est de parler de ce qui existe et de mettre à travers ces symboles nos fantasmes, nos peurs, tout ça, alors qu'on parle de nous-mêmes. Et l'idée d'utiliser cette époque, c'est plus les années 50, je veux dire, mais c'est plus comme le Gotham City de Batman. C'est une époque sans temps, véritablement. Les années 50, parce qu'avec toutes les révolutions, les indépendances coloniales, des grandes colonies, je veux dire, les indépendances sud-américaines, avec tous les mouvements qu'il y a eu, les non-alignés suite à la guerre, après la guerre, le mouvement des non-alignés. Après tout ça, en fait, c'était la meilleure époque pour moi pour, à mon tour, essayer de faire ce côté SF, je veux dire, uchronique, un personnage habillé plutôt 19e, qui revient dans son époque, on ne sait d'où, qui revient dans son île perdue, dans le temps, dans l'espace. On ne sait pas, on sait qu'elle est située en Amérique centrale, mais on ne sait pas vraiment quelle année, qu'est-ce qui se passe. Ça, je pourrais pas dire que je m'éloigne de la SF dans ce sens-là, parce que après, je mets des choses absurdes, justement, comme un petit singe qui donne les directions pour conduire un taxi par un chauffeur aveugle. C'est ces éléments où peuvent être SF, vu que c'est une fiction où je fais une observation à travers des éléments absurdes que je rajoute et une technologie que j'adapte à mon propos et pas au personnage ou pas au... Donc il n'y a pas d'éloignement, je pense. Je peux me rapprocher, j'adore la SF. En plus. Je suis venu à la bande dessinée avec la SF. Et d'ailleurs au récit, je voulais faire des films SF, je voulais faire de la bande dessinée SF. C'est juste que je n'avais pas la patience de dessiner des éléments, des vaisseaux, des trucs comme ça. Et donc, il fallait que je trouve un autre moyen de la faire.
Justement, sur les éléments, on est toujours très centré sur les personnages, qui sont toujours très en avant. Il y a un décor qui est relativement épuré la plupart du temps. C'est parce que toute l'histoire se passe d'abord par la relation des personnages et ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ressentent.
Oui, c'est tout à fait ça, en fait. C'est le retour de cet homme. Donc, je pose les bases parce que l'histoire sera en 4 volumes. Et le premier tome, c'est au départ, était une sorte d'introspection. C'était moi, je repensais, j'étais revenu chez moi, je viens de la Guadeloupe, et j'étais seul à un moment, et j'ai créé un peu comme ça cette histoire. Et je repensais à tout ça, qui est au fait d'être revenu après longtemps, et le pays, comment il n'a pas changé, comment s'il n'a rien avait bougé, et j'avais besoin de l'exprimer à travers ces personnages qui retrouvent leur famille petit à petit. Mais c'est comme les longues retrouvailles, après on se parle pas, mais on reste toujours ensemble, on sait pas trop quoi dire, on va poser comment on rencontre la vieille tante ou la mère même, on dit alors l'école c'était comment, des choses comme ça, bon, on sait pas trop quoi dire, et après ça se débloque au fur et à mesure, et là à nouveau l'histoire recommence, le temps se reprend son cours. Donc ça s'agrandit, comme à la fin ça s'agrandit les décors. Il y a vraiment les décors, on voit la place où on est, on voit les lueurs de la ville la nuit, tout devient clair, tout devient visible. Et on comprend le contexte, on sait ce qui se passe, et on part sur la suite qui viendra après.
D'un point de vue purement graphique, comment est-ce que vous travaillez pour arriver à avoir ce traitement à l'encre de Chine avec plein de petites taches, enfin c'est dilué à l'eau, donc ça pourrait rester très flou, et pourtant vous arrivez à avoir un réalisme, si je peux dire, dans le dessin. C'est toujours très clair, le lapin on le reconnaît toujours à chaque fois, le col il est toujours bien blanc.
Parce que j'utilise quand même je respecte les codes de la bande dessinée qui veulent qu'un personnage soit identifiable par la manière dont il s'habillera toujours de la même manière, même si c'est pas très propre. Mais je lui mets deux boutons, une cravate, je reconnais moi aussi, j'ai mes repères. Donc après, tout le reste, je peux me lâcher, et je suis vraiment pas propre quand je dessine, donc c'est accidentel, on va dire. Tout est accidentel, j'estime qu'il faut que je laisse le chaos et que j'essaie de recadrer le chaos, pas de le diriger. Et donc ça, on obtient ce résultat-là en mélangeant n'importe quoi, c'est pas que de l'encre, il y a du café, il y a plein de choses dedans, et même tout ce qui tombe sous la main pour obtenir un résultat où j'arrive à un peu maîtriser ce chaos. Mais après, il faut lui laisser une place et ça donne l'effet que je ne voulais, que je ne peux pas vouloir, mais que je souhaitais, que je pouvais pas diriger. Et ça donne cet effet et ça me donne cette lumière surtout. Cette lumière un peu comme dans La Matrice, ou comme dans Matrix plutôt, ou comme dans les films de Tim Burton quand il faisait des films avant Alice, tout ça, et avant La Planète des Singes. Ça donne cette ambiance comme si, je sais pas si vous voyez les courts-métrages avec la voix de Vincent Price de Tim Burton. Ça donne un peu cette ambiance un peu sale, voulue. Les auteurs qui m'ont influencé à ce niveau, il y a Bilal, avant tout, pour son côté aussi lâché, spontané. Frank Miller, pour aussi les aplats, les contrastes très forts et les négatifs. Et après, oui, c'est le résultat de l'encre. Après, j'essaie de faire quelque chose, j'obtiens autre chose, j'expérimente à chaque fois. Donc, c'est comme ça que ça arrive. Après, je travaille toujours classiquement, encre de Chine, je sers mieux mes personnages, je fais en sorte qu'ils soient reconnaissables, c'est tout.
Ça vous oblige à travailler case par case, ou est-ce que vous pouvez vous permettre de travailler une planche entière ?
Ça dépend de l'action, de la continuité d'action. Si par exemple, s'il y a une scène de combat ou une scène action successive, il faudra que je fasse la planche entière pour l'avoir dans son ensemble et pour qu'elle ait une belle composition qui soit déjà une action aussi. Donc je vais travailler en planche entière et je vais cerner, je vais mettre toute l'action en place en planche entière et je vais placer les cases dans l'ordre voulu et je vais essayer de trouver la composition juste pour avoir une bonne action. Pour les scènes en gros plan justement, ou les scènes de personnages, des choses comme ça, je les décompose ça pour chercher le rythme après. Au cas où ça fonctionne pas quand c'est dans ce sens, etc. Là, je décompose et là, je les replace à l'ordinateur.
L'introduction des cases de dialogue après, ou des cases narratives, ça se fait comment ? Parce que ça mange un peu de dessin, du coup, de temps en temps.
Oui, mais ça, c'est parce qu'au départ, la BD... En fait, l'idée de cette bande dessinée est partie parce que je voulais faire un film au départ. Donc, je voulais faire un film d'animation avec. Je voulais faire un film avec ce traitement, un truc très sombre avec ce personnage très sombre sur cette révolution sanglante, et lui qui revient et qui va développer une histoire, on va comprendre le mystère qu'il porte en lui et son grand secret. Donc au départ j'avais conçu la bande dessinée, les premières pages, comme un storyboard BD pour moi, en outil de travail. Après il est arrivé que certains dessins étaient assez bons pour passer, donc, mais je pouvais pas changer les autres, premièrement parce que je suis très fainéant et parce que ça me fatiguait de refaire toutes ces pages. Et parce que je n'arrivais pas à refaire d'autres pages et je préférais faire d'autres. Donc en fait c'est un défaut de cette bande dessinée pour le moment, mais qui sera résolu dans les suivantes, bien sûr, vu que les suivantes seront proprement. Donc c'est plutôt un défaut, c'est pas voulu. C'est l'idée que ça mange, c'est moi qui jugeais mal l'écriture manuscrite, et comme on est passé à l'écriture numérique, ça fait vide, ça fait déséquilibre sur l'ensemble. Mais je reconnais, c'est le côté punk, on va dire.
Le deuxième volume, est-ce que vous avez déjà une idée de sa date de sortie ?
Ah oui, avril. Avril 2011, oui. Oui, il n'y a rien de fait encore, parce que l'idée de... Ça a l'air aussi le bordel, parce que ça va très vite pour les faire. Je fais un peu le japonais à ce niveau. Je m'enferme chez moi, je dors 4 heures par nuit, et je fais que ça. C'est comme ça, j'espère que je pourrai tenir les délais cette fois. L'histoire est prête, je connais la fin de cette histoire, c'est en 4 volumes, je sais ce qui se termine, je sais qui est ce lapin noir qui porte un masque en permanence, et je sais ce qu'il veut, je sais qui est qui, et leur volonté, leur acte, et surtout ce qui va se passer sur la fin, donc pas d'inquiétude, la fin est prévue, ça ne s'arrêtera pas en queue de poisson. Genre, oh, il est mort. C'est triste. Une bombe atomique a explosé et a ravagé toute la Terre. C'est l'Holocauste. Non, ça ne se terminera pas comme ça. La fin vient, elle est connue dès le début. La fin a amené le début, disons.
Au niveau des dédicaces, est-ce que les gens vous demandent quelque chose de particulier à chaque fois ou est-ce que vous imposez quelque chose ?
Selon vous, qu'est-ce qu'ils veulent ? Donc en voyant. Les gens demandent quelque chose en particulier, tout le temps. Exactement.
Moi. Pas la jeune femme ?
Non, même les hommes, si, ils demandent la jeune femme. Mais la plupart du temps, c'est étrange. Ce personnage, j'étais persuadé, moi, d'être plus dans... de plaire plus au gothique, justement, d'être plus cool, gothique, steampunk, tout ça, d'être dans cette ambiance. Mais non, j'ai remarqué, vous savez, dans les dédicaces, celles qui viennent me demander des dédicaces sont entre 30 et 40 ans, et elles me font... cette phrase qui, des fois, au début, ça m'a fait plaisir. Après, je me suis dit, je sais pas si j'avais fait dans ce but. Quand ils disent, je voudrais le lapin. Mais de cette manière, je voudrais le lapin. Il y a quelque chose de précis. Son côté mystérieux, je veux. Bon. Et donc, le lapin, toujours. Ah, là, il est classe, comme ça. Ça, je veux. Il est parfait. Et ce genre de réaction. Et je me suis dit, bon, visiblement, il plaît. Et le plus drôle, c'est que cette BD n'est pas du tout pour les enfants. Je pensais pas du tout aux enfants. C'est hier ou pendant tout le festival, les enfants sont venus en permanence me demander sur des feuilles volantes, bien sûr, de dessiner le lapin. Et à la fin, j'ai dit, c'est pas Titeuf vraiment le lapin, et il y a Kid Paddle là, si tu veux un truc pour enfant. Il fait non, mais il est cool. Je dis, ouais, mais je voulais pas qu'il soit juste cool. Je veux dire, il porte un mystère. J'ai fait en sorte qu'il soit séduisant parce qu'il représente quelque chose qui est en rapport avec la fin pour montrer pourquoi il est comme ça. Mais oui, c'est vrai qu'après, quand ça s'arrête que là, je me dis, bon, après, je sais pas, c'est tant mieux d'un côté, car ça attire l'œil, la preuve, vous l'aimez bien, et Manu le Sanctis, visiblement, l'aimait bien, vu qu'ils m'ont demandé d'en faire un album, et moi, j'aimais bien, vu que j'en voulais faire un film, carrément, et je le trouvais très visuel, c'est vrai, mais je voulais qu'il soit porteur de quelque chose de plus... Mais peut-être aussi ça, comme il a tous mes espoirs, peut-être qu'il a... ça transpire à travers lui, sûrement. Donc, on me demande... que le lapin. La jeune femme, c'est que les hommes et qui me demandent une position pour la jeune femme. Ouais, un peu cool et tout. Après. Et donc, mais le plus souvent, ce que je préfère, c'est faire un couple de tango, comme sur la quatrième de couverture, mais il est tout petit alors qu'il est énorme comme ça, ce dessin. Ils en ont fait ça. L'édition.
Cette année, pour terminer nos interviews, on a une question qui est celle-ci. Si on vous donnait la possibilité de collaborer avec un artiste ayant existé dans quelque domaine artistique, que ce serait ? Ouais. Qui ce serait ? Ouais.
Egon Schiele. Egon Schiele. Le peintre. Egon Schiele, le peintre viennois. Vous savez, l'élève de Klimt. En fait, oui, il m'a influencé beaucoup dans le dessin, mais c'est vrai que c'est un peintre, c'est pas un... Si vous parlez de dessinateur de BD ou de...
Comme vous voulez, n'importe quoi.
Musique, moi, c'est vraiment... Oui, c'est Egon Schiele. J'aimerais faire les scénarios de ses BD, s'il en faisait. Et il aurait trop de succès, encore plus que maintenant. Donc voilà.
Okay. Merci.
Merci à vous, surtout. Merci de vous intéresser à moi. Merci, monsieur. C'est génial, ça flatte l'ego. Surtout que c'est avec vous, les gothiques, que je voulais être, et pas avec les cougars.
Vous avez un site internet, un blog en plus toutes les infos sur le site de Manolo Sanctis.
Oui, en fait, oui, je suis vraiment avec la machine, vous savez, J'ai acheté un téléphone il n'y a pas longtemps et j'ai demandé un téléphone en fait qui fait appel, réception d'appels et SMS. Et ils sortaient des trucs avec des écrans, des ordinateurs, comme ça. Et c'était même dur d'avoir un simple téléphone, quoi. Donc, non, j'ai pas vraiment de blog ou de trucs comme ça. J'arrive vraiment pas à faire. J'ai essayé. Ça veut pas dire que je suis un attardé qui fait que du lavis et tout, qui sait pas que la peinture numérique existe. Hein. J'ai essayé, mais c'est vraiment mauvais parce que j'ai constaté. Simplement, en fait, c'est le lavis est une technique simple et surtout que je fais plein d'erreurs et que je salope le travail, il faut le dire. À l'ordi, il plante déjà, il s'arrête, alors que j'ai passé une nuit et je pense pas à faire pommesse. Et ma feuille de papier, elle se plante jamais. Je veux dire, elle salit, elle se déchire, mais c'est le maximum pour que le travail soit annulé. Donc vraiment, avec la machine, je travaille très rarement. J'utilise très rarement, quand même. À part ici. Et merci pour eux, d'ailleurs, pour l'édition numérique. Et merci à vous, surtout. De prêter attention aux petits dessinateurs tout petits comme ça.
Merci.
Merci.